Jean-Eudes Maillard, bonjour.
Bonjour.
Donc on est ici à Lens, au Colisée, donc c'est une salle de théâtre avec aussi une belle salle d'exposition. Et vous présentez une exposition, j'allais dire, deuxième partie d'un chantier qui a eu lieu l'année dernière, qui a donné lieu donc à une présentation Urbamix numéro 1. Et cette année, eh bien, c'est Urbamix numéro 2.
Tout à fait. Parce qu'en fait, j'ai travaillé pendant 2 ans sur les dossiers d'aménagement urbain pour l'ANRU d'une, je sais plus, il y avait entre 15 et 20 villes, parce qu'il y avait des villes où il y avait plusieurs quartiers, donc sur la moitié nord de la France, enfin de la région parisienne jusque la métropole lilloise. L'ANRU, c'est l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et j'ai accompagné en fait les élus, enfin les maires, pour monter une sorte de business plan de leur projet d'aménagement et de cohésion sociale. Et après ces 2 ans, en fait, j'ai arrêté parce que j'en avais un peu marre de faire toujours la même chose. Et là, je me suis mis à réfléchir comment on pouvait aller plus loin, notamment à travailler sur la cohésion sociale et puis avoir une recherche. Et donc, les villes, je les connaissais. Les gens, je les avais rencontrés, c'était sur le dossier, par l'intermédiaire des chargés de mission avec qui je travaillais, et puis des élus. Et puis après, bah, j'avais envie de plus aller dans le fond et avec la population, quoi.
Donc la ville de Lens, c'est là où vous êtes installé. Depuis combien de temps là, pour travailler sur ce projet ?
C'était une des villes sur laquelle j'ai travaillé. Et il y a donc l'année dernière, j'ai rencontré une adjointe à la culture qui m'a dit ouais, ce serait sympa de pouvoir travailler avec les habitants, justement, par rapport à la manière dont ils appréhendaient l'art. Elle m'a dit quelque chose qui m'a un peu fait réagir. Elle m'a dit que les gens à Lens, il y avait peu de monde qui connaissait le monde de l'art contemporain, alors qu'on accueille quand même le musée du Louvre bientôt. Et donc, si on a quelqu'un comme ça sur le terrain qui parle de l'art et puis qui parle avec les gens avec une connaissance en histoire de l'art, bah, ça peut être un plus, quoi. Ça peut être intéressant de travailler avec vous, justement, et puis créer Urbamix.
C'est vrai que cette mutation du territoire, elle est portée, on va dire, par deux acteurs, les décideurs, les élus, d'une manière générale, ouais. Et aussi les habitants. Et justement, l'un sans l'autre, c'est difficile.
C'est impossible, même. Parce que de toute façon, si on fait sans les habitants, on va refaire ce qui a été fait dans les années 70, c'est-à-dire qu'on va faire de l'aménagement du territoire, et puis on va dire, bah voilà, on va vous mettre comme ça, on va vous mettre comme ça, on va vous mettre là, on va vous mettre là, on va vous faire une école, tout ça, et puis bah, elle est où la cohésion sociale, elle est où la concertation avec les habitants, enfin elle n'existe plus, quoi. Donc si on veut pas refaire les mêmes bêtises que dans les années 70, où on construit des parcs que pour habitants, on est obligé de rencontrer les habitants et puis de leur demander leurs besoins. Donc c'est pour ça que l'ANRU a été créé, hein. Donc c'était pour qu'il y ait non seulement des fonds, des budgets, et puis pour la partie aménagement, mais aussi surtout pour la partie rencontre, la partie communication, qui est de l'échange entre les habitants et les décideurs, les élus.
Donc cette mutation, elle est en route, mais on ne sait pas forcément si la mayonnaise va prendre. Vous qui êtes sur le terrain des quartiers, par exemple, depuis un moment, est-ce que vous sentez une passion qui se développe, une envie, des projets qui semblent naître ?
La difficulté, c'est que les habitants ont du mal à s'insérer dans leur nouvel environnement. Ils ont habité dans leur logement, ils ont grandi dans leur cité. C'est pas facile de passer du tout vieux. Et puis c'est un petit peu comme quelqu'un qui gagne au loto, du jour au lendemain, il va perdre un peu ses repères. Donc l'aspect identitaire est très important pour ces projets. Et on aborde une vision des choses qui est un peut-être un peu élitiste, mais qui va faire bouger les choses de toute façon. Mais il va falloir du temps, je pense. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain.
Du temps et visiblement de la médiation.
La médiation, oui, tout à fait. C'est pour ça que bah, y a des réunions de concertation qui sont faites régulièrement entre les habitants. Les projets remontent vers les élus. Les élus définissent des projets avec ces remontées d'informations. Enfin bon, y a vraiment un échange qui se fait aujourd'hui au niveau des villes, ce qui est quand même nouveau, quoi, parce que ça ne se faisait pas il y a 40-50 ans.
On connaît les médiateurs sociaux, les médiateurs culturels. Maintenant, il y a en plus les médiateurs artistes.
Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé avec les élus, de les connaître, de connaître leur manière de fonctionner également. L'avantage, c'est de pouvoir effectivement, à travers l'art, d'enjoliver les choses et puis éventuellement de les faire les mettre en relation, enfin entre les projets les gens, enfin les habitants et puis les élus, quoi.
Les œuvres que vous présentez, on peut les expliquer, les expliciter un peu?
Alors, c'est un travail qui a été fait avec cette année, en tout cas, des jeunes de l'école de la seconde chance, de la deuxième chance, pardon. Donc, on a travaillé sur l'aspect identitaire avec ces jeunes qui m'ont un peu parlé d'eux. Enfin, on a passé 3 après-midi ensemble et ils m'ont fait partager leurs émotions, leurs envies, et c'est tout ça que j'avais envie de mettre en valeur, et puis en même temps de leur rendre un espèce d'hommage à ce qui est en train de se faire en ce moment dans les quartiers et à travers ces gens-là, quoi.
Dans les tableaux qui sont présentés, qui sont de nature assez abstraite, on a des phrases qui ont été créées par qui ?
Alors il y a deux types de phrases. Il y a les phrases des jeunes. Donc il y a parfois leur histoire, parfois il y a des mots, il y a des choses qui sont qui m'ont dit, donc qu'ils ont écrit même. Donc ça, je voulais que ça apparaisse sur les tableaux. Et puis ensuite il y a les miennes. Par rapport à leur environnement, par rapport à leur culture, j'avais envie de leur donner des messages de la vie de tous les jours, ou alors il y a des espèces de citations. Et là, c'est pareil, c'est des mots auxquels m'ont fait penser, ou des citations que je pensais quand je lisais leurs phrases ou quand je les entendais parler.
Donc on va illustrer avec quelques-unes de ces phrases. Alors, ce n'est pas le champ qui nourrit, c'est la culture.
Ah, c'est... je vous laisse imaginer. Je crois que ça parle des problématiques qu'il y a en ce moment à la ville de Lens. Enfin, je reste convaincu que la culture, elle est partout, la culture, d'accord ? Et c'est ce qui nourrit l'être humain, justement, peut-être plus spirituellement que physiquement. Donc voilà, c'était par rapport à ça. C'est une réponse à un des jeunes, justement, parce qu'il comprend pas que... Enfin, il comprenait pas avant notre conversation, enfin notre discussion, il savait pas à quoi ça servait la culture, et puis de s'ouvrir aux autres, en fait, aussi. Parce que, on le sait, c'est les artistes les plus célèbres sont nés dans les moments les plus difficiles. Il n'y a qu'à voir les affichistes polonais du début du siècle dernier, qui ont fait un travail extraordinaire, et puis justement sur la société, et justement parce qu'ils étaient eux-mêmes confrontés aux problématiques. Cependant, ce qui est très dur, c'est d'avoir le recul dans ces moments-là, pour pouvoir se poser les questions, et puis les bonnes questions, à mon avis, là-dessus, quoi. Donc voilà.
Alors peut-être aussi une des solutions, c'est d'ouvrir les yeux, puisqu'il y a aussi une phrase, le monde semble sombre quand on a les yeux fermés.
Fermé, voilà. C'est pas une façon pour moi d'avancer, quoi, quand on a un problème, où on regarde derrière ou on regarde devant, quoi. Donc, mais il faut regarder en tout cas.
Et si possible, ne pas rester seul. Il y a une phrase intéressante aussi qui est: pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village.
C'est aussi un message que je voulais donner, c'est-à-dire que quand on est dans un quartier, on vit avec, avec du monde. Il peut y avoir des médecins, il peut y avoir des danseurs, enfin, on peut avoir des voisins musiciens, on peut avoir des voisins journalistes, on peut avoir des voisins qui font plein de choses. Et ce sont toujours des gens qui sont super intéressants. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses, à mon avis, beaucoup plus intéressantes, quoi.
Alors, exister dans un village, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir y grandir de manière équilibrée. Quand je vois cette phrase, nous, la différence, on a grandi dedans.
J'ai l'école de la seconde chance. Moi, ce qui me plaisait de travailler avec eux, c'est que, enfin, c'est une école où ils sont sortis du système scolaire. Parce qu'ils ne sont pas cortiqués de la même manière, ils ont pas envie d'apprendre. Et à mon avis, ce sont justement parce que ce sont des créatifs. Et aujourd'hui, au niveau de la, enfin, sur un plan, enfin, sur un niveau sociétal, on est en train de s'en rendre compte. D'ailleurs, les grandes écoles type Harvard, par exemple, les concours d'entrée sont axés sur la créativité de l'individu, parce qu'ils savent que quand on est dans une situation de crise, un chef d'entreprise, il saura peut-être beaucoup plus facilement rebondir que si c'est quelqu'un qui est cortiqué de manière naturelle. Et aujourd'hui, on est en train d'en prendre conscience, et justement, enfin, ce qui est bien dans ce type d'école, enfin, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que on les laisse pas justement sur la touche en leur disant, ben voilà, vous êtes sorti du système scolaire, vous savez rien faire, mais c'est juste parce que vous êtes différent.
Alors c'est vrai qu'il y a aussi l'influence familiale, et là il y a une phrase qui est un peu choc, on va dire, on est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Bah oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est plus le. C'est aussi pour les rassurer, parce qu'il y a des jeunes qui ont enfin, qui ont grandi dans un environnement qui est très difficile, quoi. Donc, c'est aussi une façon de les motiver et puis de leur dire, t'inquiète pas, quoi. Tu vas t'en sortir.
Donc là, on est à très peu de l'arrivée du Louvre à Lens. Est-ce que pour vous, en tant qu'artiste, ça représente quelque chose d'essentiel dans ce territoire?
Oh, forcément, oui. D'abord, il va y avoir des milliers, voire des millions de gens qui vont venir de l'extérieur. C'est une façon pour les habitants de Lens de regarder ce qui se passe à l'extérieur aussi. Donc sur un plan économique, bon, bah, je crois que tout a été dit. Sur un plan culturel, tout va être bientôt dévoilé. Et puis sur une dynamique au niveau sociétal, c'est que du bonheur. Enfin, même si moi, j'adhère pas forcément à tout ce qu'il va y avoir au Louvre, ce n'est quand même que positif, je pense.
Voilà, en quelque sorte, donc vous préfigurez l'intrusion des artistes dans la cité lançoise.
En tout cas, je l'espère.
Donc un deuxième grand temps fort de ces prochaines années, c'est le bassin minier UNESCO et tout son développement. Est-ce que pour les gens que vous avez rencontrés, c'est quelque chose dont ils ont réellement conscience? Et est-ce que finalement, de l'extérieur, on n'en parle pas plus que de l'intérieur?
Ben, je vais vous raconter une anecdote. En fait, l'année dernière, je prenais des photos dans Manhattan à New York et je rencontre un photographe d'une célèbre agence de photographie reporter qui m'interpelle et qui me raconte qu'il y a 20 ans, il était venu faire un reportage en France pour le magazine Géo, et c'était sur le bassin minier et ses habitants. Et il m'a dit qu'il avait rencontré des gens d'une humilité et d'une humanité extraordinaires. Rencontrer dans New York comme ça quelqu'un qui vous parle du bassin minier, c'est tout ce qu'il connaissait de la France. Et lui, du coup, ça lui a donné une image de la France par le bassin minier. Alors, c'est quand même extraordinaire, quoi.
Voilà, donc la richesse du patrimoine de la région, c'est aussi, peut-être surtout, ses habitants.
Ah ben c'est, enfin pour moi, c'est ses habitants en tout cas. Parce que
Merci.
sans eux, la région n'existe pas, quoi. Enfin.
Bien, merci Jean-Eudes Maillard.
Ben merci.
Ce sujet a été réalisé par René Lavergne de Radio Campus.